12. L'enfant terrible. À dater de cette époque, Rosalie ne cessa plus de décliner. Il n'y avait que le médecin qui garda encore de l'espoir. Du nombre de ceux pour qui l'homme n'est qu'une machine plus ou moins parfaite et qui ne voit dans les maladies que la lésion ou l'affection de tel ou tel organe, à vrai dire, il avait été d'abord perplexe. Les symptômes alarmants qu'offrait sa cliente l'avaient conduit à la percuter et à l'ausculter, et à sa grande surprise, il n'avait découvert aucune oblitération dans les divers rouages de l'organisme. Le cœur, les poumons, les reins, etc. fonctionnaient avec la précision de la meilleure horloge. Il était trop honnête homme pour prescrire une ordonnance banale, mais incapable aussi de donner tort à ses théories physiologiques. Ne pouvant palper le mal, il avait déclaré qu'il n'y en avait point. Un jour, plus que jamais dérouté, il se risquait à dire, il est vrai, bien timidement, qu'il se pourrait que l'âme fût malade. « Eh bien, répliqua Clément, donnez-lui une potion !» Sensible au sarcasme, il en revint à sa première déclaration qu'il n'y avait pas de lésion, partant rien à guérir. 2 années, Rosalie alla de mal en pis, et il tint le même langage. Elle se mourait, enfin, que le docteur soutenait de plus belle mordicus qu'elle était constituée pour 100 ans de vie et qu'elle recouvrerait la santé. Il se bornait à recommander, outre le repos et la patience, l'essai d'une nourriture aussi substantielle que possible. Clément ne croyait point aux affirmations du médecin. Il puisait toutefois dans ses prescriptions le prétexte qu'il cherchait pour ne plus donner de soirées et restreindre de plus en plus le nombre de ses connaissances. Quelque effort qu'il fit pour ne rien laisser voir, il était maintenant hors de doute que, sous un calme apparent, il cachait des appréhensions dévorantes, des douleurs atroces. Il surveillait sa femme avec la jalousie d'un amoureux de 20 ans ou de 60. S'il tolérait que Madame Tillard ou Max ou Rodolphe se trouvât seul avec elle, il ne permettait plus à aucun prêtre, pas même à l'abbé Ponceau, d'en approcher. Esclave de sa femme presque en toute chose, sur ce chapitre il était inflexible. Déterminé à la maintenir dans le cercle de croyance où elle avait si longtemps vécu, pour peu que par quelque signe extérieur elle trahît la préoccupation d'un dieu, d'une vie future ou d'autres idées de cet ordre, il passait graduellement de l'ironie à la fureur et n'échappait souvent que par la fuite à l'horrible tentation de la brutaliser. Somme toute, cet intérieur, où le trouble avait été sans cesse en augmentant, aujourd'hui n'était plus qu'un enfer. Des personnes qui y allaient encore, Max était seul assez au fait pour s'apercevoir de tout cela. N'eût été une curiosité dont les exigences approchaient de celles d'une manie, il n'eût jamais remis les pieds dans la maison, tant les scènes auxquelles il y assistait lui faisaient de mal. De l'ensemble de ce qui s'y était passé, et s'y passait incessamment sous ses yeux, il résultait pour lui une sorte de problème dramatique dont il souhaitait de connaître la solution, et bien que les détails qu'il ne discontinuait pas de surprendre lui causassent une réelle terreur, il ne mettait ni moins d'âpreté ni moins de passion à les recueillir ou à les grouper dans sa mémoire. Madame Tillard eut une nouvelle indisposition qui, sans être plus grave que la précédente, la força néanmoins à garder le lit plusieurs jours. Sous l'influence d'un amour croissant pour elle, Destroy parvint à lui arracher la faveur de passer des heures entières auprès de son lit. N'étant jamais entré, avant cette circonstance, dans la chambre à coucher de son ami, il eût été au moins surprenant qu'il ne l'examinât pas avec le plus grand intérêt. Tout à coup, à un endroit de la muraille qu'on ne pouvait apercevoir du lit et que l'ombre envahissait d'ordinaire, il entrevit un portrait dont la perception, si confuse qu'elle fût, lui donna une secousse. Cédant à une impulsion irrésistible, il se leva aussitôt et s'en approcha pour le mieux voir. À la vue distincte de ce portrait, il s'arrêta, frappé de stupeur, et poussa une légère exclamation. Ce portrait, fort bien peint, était celui d'un homme encore jeune. Par suite de la pâleur du teint, de l'expression des yeux, de la grâce des lèvres, des cheveux noirs, longs et naturellement bouclés, l'ensemble était séduisant. L'air doux de cette physionomie n'en excluait pas une teinte de cruauté qui, du reste, ne frappait qu'un homme attentif et exercé. Or, ses traits, ses yeux, cette expression, ce visage enfin, était pour Max la révélation d'un fait bien autrement extraordinaire et mystérieux que tout ce qui l'avait étonné et inquiété jusqu'à ce jour dans l'existence de Clément et de Rosalie. Un moment, il voulut croire que la ressemblance d'un enfant qu'il n'avait vu qu'une fois, avec cette figure était extrêmement lointaine et qu'il était dupe de ses sens ou de ses souvenirs. Mais, à la suite d'un nouvel examen, longuement réfléchi, il comprit qu'il n'y avait pas de confusion possible et que le phénomène n'était pas contestable. Bouleversé, presque terrifié, il se tourna vers son ami qui, de son côté, le considérait sans comprendre sa pantomime. « Ce portrait, madame, lui dit-il avec précipitation, n'était-il pas autrefois dans votre salle à manger ?» Madame Tillard fit un geste affirmatif. « C'est cela, repartit Max d'un air profondément pensif. Je me rappelais bien l'avoir vu, mais je ne savais plus où. » Il ne dit rien de plus, si bien que Madame Tillard, dont les pressantes questions n'eurent pas de réponse, en fut réduite à faire des conjectures. Par le fait de cette faiblesse qui nous porte à interpréter les actes d'autrui dans le sens le plus conforme à notre passion, elle avait jadis fait disparaître ce portrait de son mari du mur de la salle à manger, pour avoir cru que d'Estrois ne le voyait pas sans déplaisir quand, véritablement, il y prenait à peine garde. Elle continua volontiers son erreur et y ajouta, en attribuant comme elle l'avoua peu après l'émotion de Max, puis son accablement à cette même jalousie rétrospective qu'elle lui avait déjà supposée. Il arriva environ 3 semaines plus tard que Madame Tillard, sa mère et Frédéric, Max, Rodolphe de Villiers et 2 ou 3 autres personnes se trouvèrent un soir réunis chez Clément. C'était la première fois depuis la grande soirée que tant de visiteurs s'y rencontraient en même temps. Rosalie, étendue languissamment sur une chaise longue, était l'objet d'une sollicitude exclusive. Elle semblait extrêmement touchée de cet empressement et marquait sa reconnaissance en imprimant, par intervalles, à ses lèvres sèches et décolorées, l'inflexion d'un sourire. Bien moins pour elle-même qu'une prostration insurmontable rendait incapable de s'intéresser à quoi que ce fût, que dans l'intention de procurer à son mari une distraction qu'il préférait à toute autre, elle pria même instamment Madame Tillard et Max de faire un peu de musique. Mais cette déférence pour les goûts de Clément dépassait la mesure de ses forces. Les sons pénétrants du violon faisait vibrer douloureusement sa chair et produisait sur tout son corps l'effet d'un acide sur une plaie. D'Estrois fut contraint de s'arrêter au tiers du morceau. Sur les ordres de Clément, la vieille Marguerite servit une collation improvisée. Si la soirée était triste, du moins était-elle d'une tristesse tranquille. La pendule marquait déjà 10 heures. Rodolphe, de Villiers, puis bientôt le vieux Frédéric, parlèrent de se retirer. Au milieu du silence qui précédait leur départ, la sonnette de la porte rendit tout à coup des sons éclatants. Rosalie et Clément tressaillirent. « Heure des visites ?» fit Clément en regardant la pendule d'un air inquiet. « Passé, ce me semble. » La vieille sourde entra. Clément l'interpella d'une voix forte. Marguerite répondit que c'était la nourrice avec l'enfant de madame. Rosalie jeta un cri qu'on pouvait prendre pour un cri de bonheur. Elle essaya de se lever, mais elle retomba aussitôt sur le dossier de sa chaise, tandis que ses gestes fébriles et l'animation de sa physionomie témoignaient d'une émotion extraordinaire. Clément, qui, contrairement aux vœux constants de sa femme, voulait que l'enfant restât à Saint-Germain, se dirigea sur le champ vers l'antichambre, disant d'un air irrité « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» La nourrice avait suivi de près la vieille sourde. Elle entrait dans le salon avec l'enfant, juste au moment où Clément allait en sortir. Il l'envisagea quelques secondes avec colère. « Qui vous a commandé d'amener cet enfant ?» lui dit-il ensuite d'un ton à faire trembler une femme moins brave. « Oh, monsieur, fit celle-ci avec vivacité, sans reculer d'un pas, votre enfant, je ne sais plus qu'en faire. » Il ne décesse pas depuis un mois de pleurer le jour et la nuit et d'appeler sa maman. Mon pauvre homme, qui fatigue dans les champs du matin au soir, ne peut plus dormir. Quant à moi, je suis sur les dents, j'en ai assez. Et vous me donneriez bien 100 francs par mois que je ne voudrais plus garder davantage votre petit. Reprenez-le. » Clément était atterré. « Donnez-le-moi !» s'écria Rosalie dans un élan irrésistible de tendresse. La nourrice, d'un air de satisfaction, tout en disant « La voilà, ta maman, mon chéri !» s'empressa de mettre l'enfant dans les bras de la mère. Rosalie le baisa et le serra contre elle avec transport. Mais l'enfant, sans paraître le moins du monde ému de ses caresses, se démenait et tâchait à se débarrasser du châle dont il était emmailloté. En accompagnant ses gestes de quelques cris aigus, il eut bientôt raison de la faible résistance que lui opposait sa mère. Rosalie dut l'asseoir sur ses genoux et lui découvrir le visage. Il tournait le dos à la lumière et avait naturellement la face dans l'ombre. À moins d'être près de lui, on ne pouvait distinguer bien nettement ses traits. Madame Tillard n'eut-elle pas eu une réelle amitié pour Rosalie ? Ce fut encore par simple politesse occupée de son enfant. Elle se leva donc en vue d'en approcher. Clément, devinant tout de suite l'intention de Madame Tillard, secoua subitement sa torpeur pour s'agiter avec une vivacité d'écureuil. En deux enjambées, il fut devant sa femme. « Rosalie, lui dit-il d'une voix pleine d'anxiété, si tu rentrais chez toi, cet enfant va nous importuner de ses cris, et toi-même tu as besoin de repos. » Et, sans attendre de réponse, « Max, ajouta-t-il, viens donc m'aider à la rouler dans sa chambre. » La chaise était déjà ébranlée. « Oh, laissez-nous au moins le temps de le voir et de l'embrasser, » dit Madame Tillard en se baissant vers l'enfant. Elle se redressa sur le champ avec effroi. Un peu après, croyant s'être trompée, elle se baissa de nouveau. Sa première impression fut à ce point confirmée qu'elle en eut la peau moite et chancela. Clément et sa femme étaient pétrifiés. À l'exception de Max, les autres personnes ne comprenaient rien au trouble de Madame Tillard, laquelle, d'un pas incertain, regagnant sa place, dit « C'est étrange !» Sa mère lui dit à mi-voix « Qu'y a-t-il d'étrange ?» Madame Tillard s'attacha encore à l'idée d'avoir mal vu. Elle alla à l'enfant, le prit dans ses bras, le regarda de tous ses yeux, puis, le présentant à Madame Ducornet, « La voyez !» lui dit-elle. Madame Ducornet eut à peine jeté les yeux sur l'enfant qu'elle s'écria toute saisie, « Oh, c'est plus qu'étrange !»« Voyez Frédéric !» reprit Madame Tillard en tournant l'enfant du côté du vieillard. Celui-ci considéra l'enfant à son tour et parut n'avoir point d'yeux assez grands pour le voir. « Oh, vous avez raison, madame, » dit-il d'une voix altérée, « c'est vraiment miraculeux !» Pendant ce temps, la paysanne, qui prenait pour du ravissement l'effet que causait son nourrisson, s'approchait et disait, « Je puis bien dire qu'il est aussi mignon que gentil, et qu'il n'a pas été difficile à élever, sauf ces derniers temps. Ça a toujours été un modèle de douceur. Je réponds bien qu'il ne criera plus, le mignon chéri, à cette heure, qu'il sera avec sa maman. » Madame Tillard, sa mère, Frédéric, avaient toujours les yeux sur l'enfant. « C'est étrange !» répétait-il tour à tour. Clément commençait à s'impatienter de son supplice. Il montait insensiblement à ce degré de colère où, dominé par sa propre violence, on devient incapable de garder des ménagements. Croisant les bras, « Après tout, madame, » fit-il d'une voix qui présageait un orage intérieur, « que voyez-vous là donc de si étrange ?» Madame Tillard remettait l'enfant sur les genoux de la mère. Elle se tourna vers Clément. Vous avez connu mon mari, monsieur, dit-elle d'un air pénétré, et vous vous étonnez de ma surprise. Eh bien, quoi, madame, repartit Clément, parce que mon fils ressemble vaguement à feu votre mari. Mais c'est ainsi méprendre, fit bien bas Madame Tillard. « Que voulez-vous que j'y fasse, madame ?» dit aussitôt Clément d'un ton de plus en plus brutal. Madame Tillard, par égard pour Rosalie, ne voulut prendre garde ni à ses manières ni à ce langage. « Comment, monsieur ? » dit-elle de l'accent le plus affectueux. « Vous ne voulez pas même que je m'étonne d'une ressemblance aussi extraordinaire ?»« T'es qu'en vérité, madame ?» dit Clément, toujours de même. « Votre étonnement a quelque chose de si injurieux pour moi. Mais non, monsieur, je vous assure que vous vous trompez. Ah, « Cependant, madame, dit encore Clément, que la politesse de madame Tillard achevait d'exaspérer, n'est-ce pas en quelque sorte mettre en doute l'honneur de ma femme ?»« Oh, monsieur !» fit madame Tillard en devenant rouge. Rosalie semblait sur le point de rendre l'âme. D'une voix éteinte, avec l'accent de la prière, « Clément !» fit-elle en joignant les mains. Un calme sinistre suivit cette scène. Impatiente de se soustraire à ce qu'il avait de péniblement choqué, d'ailleurs de l'inconvenante conduite de leur hôte et peut-être aussi travaillée du désir de la commenter, la mère et la fille, puis, coup sur coup, les diverses autres personnes présentes s'en allèrent. À sa demande, Rosalie, avec son enfant, fut traînée dans sa chambre par la vieille sourde, aidée de la nourrice. Destroit et Clément restèrent seuls. Une rage sourde contractait horriblement les traits de ce dernier. La tête dans les épaules, le front penché, les mains plongées convulsivement dans ses poches, il mesurait la pièce de long en large. « Tu ne peux nier, » dit tout à coup Max à mi-voix, « qu'il y ait en tout cela quelque chose de prodigieux. » Clément s'arrêta brusquement devant Destroy. « Vous êtes étonnants, vous autres gens de génie !» s'écria-t-il d'un air de haute impudence. « Il faut tout vous dire !» Je ne puis cacher aucune de mes hontes. Je dois aussi confesser publiquement que ma femme a été la maîtresse de Tillard. » À moins que de cela, Max ne concevait pas, en effet, qu'il fût possible d'expliquer la conformité singulière du visage de l'enfant avec celui de l'agent de change. Aussi, quand Madame Tillard, qu'il alla voir le lendemain, anéantit cette explication rationnelle en lui faisant remarquer que le fils de Clément devait être né au moins 15 ou 18 mois après la mort de son mari, s'obstina-t-il à croire que son ami, malgré une excellente mémoire, faisait confusion de date. 13. La mort de Rosalie. Dès lors, Clément consigna rigoureusement les visiteurs à sa porte. Hormis Destroit et le médecin, personne ne pénétra plus chez lui. En dépit de cette résolution, il vivait dans des transes perpétuelles. Poursuivi d'une méfiance outrée, il était incessamment sur le qui-vive, ce qui lui donnait l'air d'un maniaque. La présence de l'enfant dans la maison n'était, entre le mari et la femme, qu'un élément nouveau de discorde et de douleur. Stupidement sérieux, apathique, il ne voulait toutefois pas se séparer de Rosalie, bien qu'il fût insensible à sa tendresse. Elle le couvrait de baisers, l'étreignait avec amour, essayait de le faire sourire, de l'animer, mais toujours en vain. Dès qu'elle le voyait, en réponse à ses tendres provocations, la regardait de son air impassible, dénué d'intelligence, elle ne manquait pas de porter la main à ses yeux, en signe de terreur et de désespoir. Ce qui ajoutait à ses tortures, c'était d'observer chez ce fils une aversion à chaque instant plus profonde pour Clément. Celui-ci n'avançait pas plutôt les bras pour le saisir que le petit s'agitait comme un forcené et jetait des cris perçants. Si bien que le père, dont les lèvres souriaient d'abord, s'irritait graduellement et parvenait à une exaspération sauvage qui faisait craindre qu'il n'étouffât son fils au lieu de l'embrasser. Rosalie avait alors des crises terribles. Ce n'était point assez qu'elle fondît en larmes et suffoqua de sanglots. Elle tombait en proie à d'effrayantes convulsions. Sous l'influence de ces secousses continuelles, elle mourait un peu tous les jours. Clément, lui, desséchait d'angoisse. Sa fièvre de surveiller sa femme mourante rappelait toujours mieux celle d'un espion passionné. Il sollicitait fréquemment des congés pour la garder lui-même à vue, surtout quand il appréhendait qu'elle n'eût des spasmes et le délire. Il ne suffisait plus de la priver impitoyablement de la consolation des visites. Il commençait même à marquer de l'ombrage des assiduités de Destroit, ce qu'il laissait voir parfois si grossièrement que Max eût déjà rompu définitivement avec lui, n'eussent été les pleurs et les prières de Rosalie. Celle-ci connut enfin cette tranquillité morne qui précède quelquefois la mort. Après être restée des semaines entières sans dormir, elle eut des sommeils profonds, presque léthargiques. Clément, déjà moins soupçonneux, se relâcha sensiblement dans son espionnage et cessa d'avoir autant peur de la laisser seule avec Destroit. Une après-midi, Max, étant venu à une heure où Clément travaillait encore à son bureau, trouva Rosalie dans un état inquiétant. Elle avait les yeux hagards, les traits bouleversés. Ses gestes convulsifs accusait des souffrances intolérables. Par intervalle, elle portait la main à sa poitrine et disait « Oh, mon ami, que je souffre! C'est du feu que j'ai là !» L'enfant la regardait d'un air qui n'avait rien d'humain. Destroit ne savait que fixer sur elle un œil rempli de commisération. Tout à coup, elle discontinua de se plaindre. Avec des peines infinies, elle parvint à se mettre sur son séant. À son air inspiré, on eût dit qu'elle puisait dans une espérance soudaine la force de dompter toutes ses douleurs. « Écoutez-moi, cher Max, balbutia-t-elle d'une voix haletante. Je mourrai peut-être demain, peut-être cette nuit. Je sens que ma fin est proche. Il dépend de vous, mon ami, d'adoucir mes derniers instants. Oh, j'ai commis de grandes fautes, oh oui, de bien grandes fautes, et je crois à la vie éternelle. Je ne voudrais pas m'en aller sans pardon. Vous savez que Clément ne veut pas entendre parler de confesseur. Mon ami, cette dernière preuve d'affection, je vous la demande à main jointe. Courez vite, cherchez un prêtre. » Épuisée, elle fit un effort suprême et ajouta « Que Clément ne rentrera pas d'ici à 3 heures, il ne saura rien et je mourrai plus tranquille. » Quoique Destroix fût ému jusqu'aux larmes, il balançait à écouter cette prière. Faute d'avoir encore été prié pour un service de ce genre dans une situation analogue, le cas échéant ne l'avait jamais préoccupé. Très empêché pour le point être versé dans les usages orthodoxes, il répugnait en outre à une conduite tortueuse et par-dessus cela était retenu par l'incertitude des conséquences que pourrait avoir sa trahison. Mais il avait moins de prudence que de sentiment. Tandis que l'une lui conseillait de ne pas s'immiscer dans des affaires aussi délicates, l'autre le pressait de répandre un peu de baume sur les blessures de cette pauvre femme et de rendre moins cruelles ses dernières heures. Le nom de l'abbé Ponceau que prononça Rosalie acheva de le décider. En tout état de choses, il ne pouvait être dangereux de se confier en cet excellent homme. Max arriva tout essoufflé au domicile du prêtre. À sa demande de le voir, on lui répliqua qu'il était à la sacristie, que toutefois c'était l'heure de son dîner, qu'il rentrerait sûrement d'un moment à l'autre. Invité à l'attendre, Destroix jugea plus prudent d'aller au-devant de lui. Justement, comme Max escaladait les marches du parvis, l'abbé Ponceau sortait de l'église. Demeurant dans le voisinage, le vieillard était coiffé de sa barrette noire liserée de rouge et portait son camail de chanoine. « Monsieur l'abbé, lui dit Destroix hors d'haleine, Madame Rosalie veut absolument vous voir, elle est à toute extrémité, il n'y a pas un moment à perdre. » Le digne prêtre, bien qu'il sût Rosalie très malade, parut extrêmement affligé de la nouvelle. Sans hésiter un seul instant, oubliant à la fois et qu'il était en tenue de cœur et qu'on l'attendait pour dîner. « Allons, 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 » fit-il d'un ton résolu. Ils prirent une voiture. Pendant le trajet, par mesure de précaution, Max crut devoir dire au prêtre une partie de la vérité. Clément ne voulait pas que sa femme fût aussi mal qu'elle l'était réellement. Il était de plus sous l'empire de cette superstition commune qui consiste à voir un présage de mort dans la présence d'un prêtre auprès d'un malade. Par ces raisons, il reculait chaque jour d'en appeler un. Rosalie, de son côté, qui avait conscience de sa fin prochaine, dans le double but de remplir ses devoirs et de ne pas attrister son mari, avait donc résolu, pour se confesser, de profiter d'un moment où il n'était pas là. À tout, l'abbé Ponceau répondit « Bene, bene ». Ils eurent bientôt dévoré la distance qui les sépare du domicile de Clément. Si peu de temps qu'ils eussent mis à venir, ils arrivèrent encore trop tard. Inquiets, sans savoir pourquoi, oppressés de vagues pressentiments, Clément avait quitté brusquement son bureau et était rentré chez lui. Tout porte à croire que Rosalie jugea à propos de l'avertir du service qu'elle avait exigé de Destroix. La vieille Marguerite n'eut pas plus tôt ouvert, l'abbé Ponceau et Max furent à peine dans l'antichambre que Clément se montra. D'une lividité de cadavre, muet de fureur, embrassant sa poitrine de ses poings crispés, il les regarda en face avec une hauteur foudroyante. Le récit le plus exact et le plus ferme n'atteindra jamais à l'horreur de la scène qui suivit. Pendant que Clément, de l'air d'une bête fauve, tenait en arrêt, magnétisait pour ainsi parler son ami et le prêtre, au fond de l'appartement, malgré les portes closes, on entendait, mêlés à des cris d'enfants d'une acuité sauvage, les plaintes d'une femme qu'on semblait égorger. Ces hurlements de détresse, à émouvoir des cœurs en marbre, ajoutaient à la rage de Clément et le jetaient insensiblement hors de lui. D'une voix étouffée, lançant des syllabes comme des flèches, « Que venez-vous faire ici ? » dit-il à l'abbé et à Max. « Mais de quoi vous mêlez-vous ? » Ceux-ci, en proie à une confusion douloureuse, baissaient la tête et gardaient le silence. « Voulez-vous donc finir de la tuer ? » continua Clément, dont l'emportement devenait de la furie. « Son état n'est-il pas assez grave ? Ne sais-je pas ce que j'ai à faire ? Me fera-t-on la loi dans ma maison ? Suis-je pas meilleur juge que personne du choix de l'heure ? Les retirez-vous ! » Les lamentations de Rosalie retentissaient avec une intensité nouvelle. « Je tiens au moins à constater, balbutia d'estroit, que ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que sur les instances réitérées de ta femme. » « Ma femme ne sait ce qu'elle fait, » repartit Clément. « Elle s'abuse sur son état. Elle a encore de longs jours à vivre. »« Souffrez, monsieur, » dit à son tour l'abbé, dont la frayeur accroissait le bégaiement, « que je vous fasse remarquer la responsabilité redoutable que vous assumez sur votre tête. »« C'est mon affaire !» s'écria Clément avec une énergie effroyable. Que ma femme ait commis des crimes, si vous voulez, et que par impossible elle meure sans absolution, eh bien, que Dieu m'accable mille fois de son châtiment et ajoute durant l'éternité des tortures inouïes. Depuis quelques instants, on n'entendait plus ni les cris de Rosalie, ni ceux de l'enfant. Max et l'abbé, dans une consternation profonde, s'apprêtaient à sortir. Soudainement, l'une des portes donnant sur l'antichambre fut ébranlée puis ouverte, et Rosalie apparut. Pieds nus, les cheveux épars, d'une main elle retenait sa chemise à son cou, de l'autre elle s'accrochait à l'un des battants de la porte. Sur sa face hâve, ses yeux agrandis, presque sans couleur, brillaient d'une expression étrange. Son corps de squelette vacillait et menaçait de s'affaisser. Max, le prêtre et Clément lui-même se retournèrent simultanément et s'arrêtèrent, saisis d'épouvante. « Je me meurs !» fit Rosalie, chez qui la soif d'entendre une parole consolante étouffa jusqu'aux instincts de pudeur. Elle glissa sur ses genoux, et laissant à découvert une poitrine épuisée, tendit ses bras débiles vers le prêtre. « Pardon, oh pardon !» s'écria-t-elle d'une voix éteinte avec toute son âme. Le vieillard, dont le cœur s'emplit de pitié, fit irrésistiblement un pas vers elle. Ce seul mouvement de l'abbé faillit rendre Clément fou. À ce degré d'égarement qui blanchit les lèvres d'écume et rend capable d'un meurtre de sa femme, il se tourna vers le prêtre et lui cria en jetant les poings en arrière « Allez-vous-en ! Épargnez-moi le tort de porter les mains sur vous !» Rosalie tomba à terre comme une masse inerte. Si l'abbé et d'Estrois ne fussent pas sortis précipitamment, Clément, dont la frénésie n'avait plus de bornes, accomplissait infailliblement sa menace. Quelques jours plus tard, Max, qui était fermement résolu à ne jamais remettre les pieds dans cette maison maudite, reçut une lettre où Clément, après lui avoir annoncé la mort de sa femme, le suppliait de venir l'assister dans les préparatifs funèbres. 14. Quantum mutatus habilo. Le besoin que ressentent les misérables, du moins ceux qui ne sont pas absolument stupides, de confier leurs fautes, ne serait-ce qu'au papier, est chose notoire. Harcelé par un besoin de ce genre, Clément ne voyait pas une seule fois Max qu'il n'eût en quelque sorte son secret sur les lèvres. À cette heure, il était impuissant à maîtriser les souffrances aiguës qui, à l'exemple de la gangrène, envahissaient graduellement en lui quelques coins oubliés. Ses rapports avec son fils étaient d'une étrangeté puissante. L'enfant avait horreur de son père. Il hurlait à son contact comme si on l'eût touché avec un fer rouge. Clément, au contraire, donnait le spectacle phénoménal d'une âme pleine pour le même objet, à la fois de haine et d'amour, c'est-à-dire qu'il aimait et exécrait son fils avec une égale violence. Parfois, malgré les pleurs et les convulsions du petit, il le saisissait de ses deux mains avec l'intention de le caresser. Mais au moment de l'approcher de son visage, il l'éloignait de lui brusquement, le considérait avec effroi, puis le laissait tomber à terre d'un air d'aversion invincible. Il essaya de tenir à distance cette sorte de monstre, et à cet effet le donna en garde à des étrangers. À quelque prix que ce fût, il ne trouva personne qui, au bout de 8 jours, ne lui ramena son enfant, lequel pleurait, criait, refusait toute nourriture, jusqu'à ce qu'on l'eût rendu à son père. D'Estrois, bien que Clément, par ses confidences successives, eût réussi à l'aliéner profondément, ne laissait pas que d'y retourner d'intervalle en intervalle. Pour aider à le comprendre, sinon à le justifier, il suffirait de rappeler ces femmes qui, tiraillées à la fois par le respect humain, l'appréhension d'émotions trop fortes et aussi par une curiosité indomptable, ne veulent pas et veulent en même temps assister à quelque horrible drame de cour d'assises. À étudier Clément, dont la constitution s'altérait, dont la tête toute blanchie redevenait cadavéreuse, dont l'œil gardait une fixité farouche ou s'agitait comme celui d'un fou, il n'était pas nécessaire de l'entendre à tout bout de champ s'écrier « Cela est intolérable !» ou « Je ne peux plus vivre de la sorte !» ou encore « Il faut que cela finisse !» pour concevoir jusqu'à quel point il était impatient d'une telle vie. « Oh, que ne puis-je parler » dit-il un jour avec des sanglots dans la gorge. « Qui vous en empêche ?» dit Max d'une voix éteinte. Il est à noter que, de plus en plus froids à l'égard l'un de l'autre, ils en étaient venus peu à peu à alterner le « tu » et le « vous » et finalement à ne plus faire usage que de ce dernier terme. « Est-ce donc uniquement ma chair qui souffre ?» ajouta Clément, qui se serrait la tête de ses poings. « Cette chair misérable est-elle susceptible de sentir tant de choses ?» « Non, évidemment non. Aurais-je une âme ? Et si j'en ai une, en doutez-vous encore ? Je le voudrais, je le veux. » La manière dont Clément pencha la tête et la cacha dans ses mains attestait que le désespoir avait usé ses forces et que son « je le veux » n'était plus qu'un mot. « Est-ce ma faute, disait-il un autre jour, si j'ai vu ce que j'ai vu et senti ce que j'ai senti? Étais-je libre de penser contrairement à mes impressions et pouvais-je croire en ce que je jugeais radicalement faux? Le scepticisme coulait dans mes veines avec mon sang, Je ne découvrais rien qui n'ajoutât encore à mon incrédulité. Dans cette société où j'ai grandi, je n'ai jamais aperçu et n'aperçois encore que confusion et désordre. On pourrait dire que l'habileté et la maladresse y sont les seules mesures du crime. Elle n'a d'honnête que le masque, et cela est à ce point vrai que, dans sa religion, ses mœurs, ses arts, sa littérature, ce qu'elle recherche avant tout, ce qu'elle exige, c'est la forme. Il ajouta, après une pause, « En quoi suis-je donc plus criminel que tant d'autres qu'animent des pensées identiques, sinon en ce que j'ai prétendu être plus rigoureux logicien ? Je défie qui que ce soit de me contredire. Quand on est convaincu qu'il n'y a pas de Dieu, que la conscience n'est qu'un préjugé, que la mort est le néant, ce qu'on appelle crime n'est-elle que relativement ? La douleur n'a pas de sens, tout ce qu'on peut faire impunément pour s'en délivrer est permis. Il n'est de beau et de bien que la jouissance et d'utile que la préoccupation de se jouer des lois. Tue, viole, vole, sois un monstre, mais qu'on ne le sache pas. Qui donc te châtiera? Il n'est qu'un lâche ou qu'un imbécile qui puisse craindre des chimères et des fantômes. Que n'êtes-vous entendu des pharisiens de nos jours? D'où je suis arrivé à cette conviction imperturbable qu'une société qui n'a que des lois pour la défendre est une société perdue. Il faudrait graver ça dans tous les esprits. Clément, prétextant d'une santé chancelante, s'était démis de sa place. De fait, comme l'indiquaient ses préparatifs, il projetait de s'éloigner. Un matin, il n'aperçut pas plus tôt Détroit qu'il s'écria « Quelle nuit! Oh, avez-vous entendu l'orage ?»«
Je dormais, sans doute, » répliqua Max.
« Ah, oh, vous êtes bien heureux !» continua Clément. « La tempête m'a tout à coup éveillé. La pluie tombait par torrents, le vent s'engouffrait dans ma cheminée et produisait un bruit persistant, analogue à celui d'orgues lointaines. J'avais les yeux pleins d'une rougeur sombre et sinistre. Je m'imaginais soudainement que le feu était à la maison. Saisi d'une terreur indicible, je sautai à terre. Je courus à ma cheminée et appliquai mon oreille à l'ouverture. Le ronflement que j'entendais était vraiment celui des flammes d'un incendie. J'ouvris précipitamment ma fenêtre pour voir le ciel. Le ciel était rouge. Les murs voisins étaient rouges aussi. Je me penchai dehors au risque de tomber dans la rue et tâchai d'apercevoir le toit de la maison. Il me sembla encore qu'il était en feu. Enfin, de tous côtés, je ne voyais que les reflets rouges d'un foyer immense. Les gouttes d'eau, larges comme des sous, qui tombaient sur mon front, étaient immédiatement séchées par la chaleur intense dont mon corps plein de fièvre était dévoré. Je résolus de monter à l'étage supérieur. Au droit de mon lit, m'étant détourné par hasard, j'aperçus au fond de l'alcôve une figure pâle qui me regardait. Je reculai d'un pas, puis je roulai à terre sans connaissance. « Mais mon Dieu !» s'écria Destroy effrayé. « Quel crime avez-vous donc commis ?»«
Ne l'avez-vous pas déjà deviné ?»
« Votre vie, vos angoisses, vos remords me font tout craindre, » dit Max, qui étouffait l'anxiété.
« Et vous n'avez pas tort ?»
Max tressaillit et attacha sur Clément des yeux démesurément ouverts. « Non, ce n'est pas possible » s'écria-t-il tout à coup énergiquement. « Ce que vous me donnez à entendre n'est pas. En vous supposant capable de tout, la prudence seule, il suffit à vous arrêter. »
« Aussi, répliqua Clément de plus en plus sombre, a-t-il fallu que j'aie le hasard pour complice essentiel.
J'aborais, Tillard, il est vrai, au point d'avoir soif de sa vie, mais à moins d'une impunité certaine, je n'eus jamais touché à un cheveu de sa tête. Je fus assez malheureux pour qu'il vînt lui-même se mettre à mon entière discrétion, tenter à la fois ma vengeance et ma cupidité, et cela dans des circonstances telles qu'il m'était aussi facile de le voler et de le faire disparaître que de boire un verre d'eau. Blême, dans une immobilité stupide, Destroit ressemblait à une pétrification. Il essaya pourtant de se lever et de sortir, mais ses jambes tremblèrent sous lui. Il fut contraint de se rasseoir. De ses plus pénibles cauchemars, il n'était jamais résulté une paralysie si douloureuse. Et Clément ajouta d'un air funèbre, « Oh, demain, irrévocablement, d'une manière ou d'une autre, je pars pour ne jamais revenir. Dans ma rage de prosélytisme, je n'ai pas discontinué de blesser tous vos instincts par des aveux révoltants. Si j'en ai trop dit pour ne pas achever, vous en avez trop entendu pour reculer devant ce qui me reste à vous dire. Qu'une fois pour toutes, vous connaissiez la mesure de ce que peut l'incrédulité exaspérée par la misère et servie par les circonstances. » Max continuait d'avoir les apparences d'un homme foudroyé. 15. Aveu complet. À part une année, et notamment un point de cette année, reprit Clément à la suite d'un long silence, vous savez ma vie presque aussi bien que moi-même. Jusqu'à la tombe, sans doute, je végétais, comme vous l'avez vu dans ma perversité légale, n'eût été mon séjour chez Tillard. Rosalie seule en fut cause, ce que je dis sans reproche. 3 années auparavant, quand je me liais avec elle, éblouissant de jeunesse et de fraîcheur, elle était précisément, par le fait d'une mère infâme, du nombre des maîtresses de l'agent de change, lequel en était fou et le prouvait en la couvrant d'or. Séduite par ma gaieté bruyante, mon insolence, mon dévergondage, la pauvre fille abandonna sans balancer une existence luxueuse pour vivre de ma vie précaire. Tillard, éperdu, la relança jusque chez moi, et dans l'espoir de la conserver, lui proposa même de fermer les yeux sur notre liaison. Elle l'avait désespéré par des refus opiniâtres. Un jour où le monde n'était plus pour nous qu'une île aride et déserte, où l'on me traitait littéralement lèpre vivante, elle songea à cet homme. Comment, pourquoi, je ne suis sa démarche qu'au retour. De son aveu, elle avait eu la faiblesse de compter sur lui en raison même de l'offense qu'elle lui avait faite. Une femme seulement pouvait tomber en cette erreur. Oui, en vérité, Tillard, à la nouvelle de notre détresse, fut ému. Mais ému d'avoir une aussi belle occasion d'assouvir sa rancune. Et s'il jura n'avoir à m'offrir qu'une place d'employé subalterne dans ses bureaux, il est hors de doute que ce fut uniquement en vue de m'infliger l'humiliation qu'il jugea la plus insultante pour moi. Il y avait en effet 1000 à parier contre un que je refuserais dédaigneusement. Rosalie, elle le croyait si bien que sa première parole fut l'expression d'une crainte. Tu vas te mettre en colère. À dire vrai, je sentis une tempête dans mes veines, mais aussi vite éteinte qu'une flamme de poudre. Je ne disposais déjà plus librement de moi. À la suite de courtes réflexions, j'envisageai Rosalie et lui dis, quand elle pensait me voir éclater de fureur, « Puisque tu tiens encore à vivre et refuses de me quitter, je dois avaler les affronts comme l'ivrogne fait du vin qu'on lui verse. Il ne s'agit que de gagner du temps. J'accepte en attendant mieux, nous verrons.
Le vieux Frédéric vous a conté l'histoire de l'agent de change. Vous n'ignorez ni son point de départ, ni sa dette envers la famille du Cornet, ni sa conduite odieuse. Eh bien, ce n'était point assez que cet homme, par son exemple, confirma mes principes, ajouta à mon envie, décupla mon impatience de la misère. Il fallait encore qu'il eût l'imprudence de me traiter comme le plus vil des esclaves. Ce qu'il accumula par ses procédés de colère et de rage en mon âme est incalculable. Je n'étais pas chez lui depuis 8 jours, qu'il ne m'adressait plus la parole qu'avec cette locution « mon garçon, mon brave », et me faisait faire bien plutôt la besogne d'un domestique que celle d'un employé. Je devenais une sorte de Mercure. Outre qu'il avait des relations suivies avec une madame de Tranchant, il était toujours en intrigue avec quelqu'une des femmes du quartier Bréda. Pas un jour ne se passait que je ne fusse envoyé tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre de ces dames, porter soit une lettre, soit des fleurs, soit même des objets d'un plus grand volume. Ingénieux à me mortifier, il ne craignit pas de me faire remarquer combien j'étais mal vêtu et de m'offrir de vieilles hardes d'un air de fausse compassion. Loin de céder à l'exaspération qui m'étouffait et de lui jeter ses loques à la tête, je m'abusiais même en les acceptant quelques mots de reconnaissance. La violence que je me faisais pour ne pas regimber l'induisit peu à peu à se convaincre que j'étais trop vil pour être sensible aux outrages. Mon ignominie le toucha. Il se piqua dès lors de bonté à mon égard. Un jour, après m'avoir accordé une augmentation de 10 francs par mois, il ajouta « Je possède rue Saint-Louis en Lille, près du Pont-Rouge, une maison dont le rez-de-chaussée est une véritable non-valeur. Il paraît que c'est inhabitable. Les gens qui consentent à loger là sont de ceux qui payent rarement leur terme. Si vous pouvez vous en arranger, je vous en donne gratis la jouissance. Ce sera toujours autant d'économies. » Lui-même tendait donc le piège où il devait bientôt venir se prendre. « Vous êtes venu une seule fois dans ce logement, le soir. À la nuit, vous n'avez pu l'apprécier qu'imparfaitement. Vous vous rappelez au moins qu'il était au rez-de-chaussée et ouvrait sur la rue. Les deux chambres contiguës, ménagées dans une porte cochère murée, en étaient nues et sombres. Le plancher, ni carrelé ni planchéié, rappelait le sol d'une basse-cour dans les temps humides. » Ces deux chambres, éclairées d'une part par un vitrage élevé qui voyait sur la rue, de l'autre par une fenêtre donnant sur une cour intérieure, ne communiquaient point avec le reste de la maison. La seule chambre du fond était encore trop spacieuse pour notre dénuement. 3 ou 4 meubles vermoulus dansaient à l'aise, pendant que des journaux, des papiers, quelques livres, des fioles et divers ustensiles de ménage, le tout entassé pêle-mêle sur des tablettes, y témoignaient des états que j'avais exercés. Somme toute, nous étions chez nous, pouvant entrer et sortir à toute heure de nuit, sans éveiller l'attention des voisins. Les conversations qu'entendirent ces murs dans l'espace des 4 mois que nous vécûmes là ne peuvent pas se raconter. Vous m'avez fait remarquer que Rosalie, entre les mains d'un honnête homme, fut infailliblement devenue une estimable ménagère. Cela est vrai. Entre les miennes, elle devint en peu de temps une compagne digne de moi. Elle ne voyait, n'entendait, ne sentait que par mes sens. Elle faisait vraiment partie intégrante de ma chair. Je ne hurlais pas plutôt contre les hommes et contre le ciel qu'elle éclatait à l'octave quand elle ne renchérissait pas sur mes imprécations.
nous raisonnions le crime à l'instar d'une opération commerciale et appelions de toutes nos forces l'occasion de nous enrichir à l'aide d'un mauvais coup. Cependant, le jour, me croirez-vous, s'il m'arrivait de manier des billets de banque, j'avais à peine une tentation. Je pouvais risquer d'en cacher un et d'en mettre la perte sur le compte d'une erreur ou d'un accident. Mais cette seule idée m'étranglait. Ma conscience de code pénal gardait mieux les billets que du fait d'une escouade d'agents de police. Mais en revanche, que de fois je me suis dit « Ah, quand donc me sera-t-il donné de pouvoir impunément violer la loi ? Quand donc pourrais-je, à la barbe de leur bourreau et de leur dieu, commettre ce qu'ils appellent un crime ?» Je devais n'être que trop bien entendu. Novembre allait venir. Chez Tillard, une catastrophe était imminente. Pour le caissier, la position n'était plus tenable. Il voulut parler à l'agent de change, qui le renvoya brutalement à ses livres. Le 30 arriva. Je compris à l'air du vieux Frédéric que le moment était venu. Au lieu de nous payer, selon qu'il avait coutume la veille du premier, il nous pria d'attendre jusqu'au lendemain. Un coup de foudre m'eût moins cruellement ébranlé. Il ne s'agissait sans doute que d'un délai, mais ce délai était pour nous la mort, puisque, faute d'argent, nous n'avions rien pris de tout le jour. Au dehors, le temps était en harmonie avec les lugubres pensées qui me comblaient. L'atmosphère était obscurcie d'un brouillard à ce point intense, surtout aux abords de la Seine, que par ordre de police, en vue de prévenir les accidents, outre une chaîne de lampions semée au coin des rues, sur les places, sur les ponts, on avait organisé un service de guides armés de torches. Depuis plusieurs jours, je remarquais précisément la crue incessante des eaux et la submersion totale des berges. Notre quartier était entièrement désert. Un silence funèbre nous enveloppait. Voyez-nous accroupis sur notre fumier, ayant faim, pénétrés de froid, et jugez, si la chose est possible, de nos angoisses et de notre désespoir. Ce fut alors que le suicide se présenta à mon esprit comme une ressource suprême. Par suite de cette même fatalité qui m'était hier sur ma route, j'avais entre les mains un agent de destruction, de tous peut-être le plus énergique et le plus rapide. Au collège, je m'étais activement occupé de chimie et mon passage dans le laboratoire du pharmacien m'avait fait que raviver ce goût en moi. Lors de mon séjour chez ce dernier, inspiré uniquement par une curiosité puérile, je m'étais approprié deux fioles contenant l'une de l'opium, l'autre en verre noir cacheté, environ 12 grammes d'acide cyanhydrique, le plus actif des poisons connus. Pendant des années, je n'avais vécu que d'expédients. J'avais erré d'hôtel en hôtel, laissant dans celui-ci une malle, dans celui-là des livres, dans cet autre des papiers, et chose étrange, jamais dans aucun je n'avais oublié ces fioles mortelles. Elles m'embarrassaient, m'importunaient. 20 fois je voulus les briser. Toujours, j'éprouvais une sourde résistance au moment de le faire. Je pourrais dire plus justement qu'elle me suivait, s'accrochait à moi, sans que ma volonté y fût pour rien. Rosalie, à qui je fis part de ma résolution, me répliqua sur le champ. J'y pensais. La crainte seule de trop souffrir la retenait encore. Je lui affirmais que ce poison produisait un effet analogue à celui de la foudre, que quelques gouttes suffisaient à donner la mort presque instantanément. Elle cessa d'hésiter. 3 ou 4 minutes de plus, et tout était fini. On frappa à la porte deux coups. Nous nous arrêtâmes, frappés de stupeur. Peut-être bien nous étions-nous trompés. Mais deux chocs plus forts se renouvelèrent coup sur coup. Je n'avais rien à craindre. Je remis la fiole en place et j'allais ouvrir. Un homme poussa la porte entr'ouverte et pénétra sans cérémonie jusqu'à la pièce où était la lumière. Notre stupeur redoubla en reconnaissant Tillard. Il était coiffé d'une casquette et enveloppé d'un ample manteau. Il avait à la main une valise pleine. À la vue de la misère qui suintait, pour ainsi dire, au travers des murailles de notre intérieur, il cacha mal son désappointement et son dégoût. Évidemment, ce qu'il voyait dépassait toutes ses prévisions. Toutefois, il parut faire de nécessité vertu. « J'ai à vous demander un service, » me dit-il. « Mais d'abord, peut-on rester ici quelques heures sans vous gêner ?» Je m'inclinai en marque d'assentiment. Une émotion extraordinaire m'envahissait et paralysait ma langue. Tillard s'assura de la solidité d'une chaise, puis s'assit, disant « Je suis sur pied depuis ce matin, je n'en puis plus et par-dessus le marché, je meurs de soif. Vous n'avez sans doute fait rien à voir chez vous. Oh, » Je fis signe que non. « Il n'est que 11 heures, » continua Tillard. « Peut-être trouvez-vous encore un marchand de vin ouvert ? Vous sera-t-il possible de vous procurer du vin et du sucre ?» Il fouilla dans sa poche et en tira une pièce de 5 francs qu'il jeta sur la table. « Voyez donc aussi, » ajouta-t-il, « s'il n'y aurait pas moyen de faire un peu de feu, je suis glacé. » Toujours muet, je l'indiquai à Rosalie, non moins interdite que moi, une vieille caisse, un tabouret, des fragments de pupitre, et lui fit comprendre par mes gestes qu'elle devait briser cela et y mettre le feu. Je sors. Les ténèbres étaient plus profondes que jamais, et sous les lanternes mêmes, on ne voyait point la lumière du gaz. Je marchais à tâtons le long des murs. Je gagnais, au jugé, vraiment, le pont Louis-Philippe. Je suivis la rampe du quai et parvins ainsi jusqu'à la place de Grève. Là, grâce à la profusion des lampions et des torches, à la lueur desquelles je voyais çà et là passer quelques silhouettes, je pus mieux m'orienter. Vis-à-vis de l'hôtel de ville, du côté de l'eau, les marchands de vin, encombrés de clients, n'avaient hâte de fermer leur comptoir. Je trouvais ce que je cherchais et je rebroussais chemin. Cependant, que se passait-il dans ma tête ? Il doit se passer quelque chose de semblable dans celle d'un général au plus fort de la bataille. Malgré un froid pénétrant, mon corps brûlait, mon cerveau était en ébullition. Les idées y affluaient avec une impétuosité inconcevable. C'était comme 20 éclairs qui se croisent en même temps sur un ciel noir. Je pensais tout ceci en quelque sorte à la fois. Tillard est un scélérat. Il fuit, il est chargé d'or. Nul ne sait qu'il est chez moi. J'ai un poison qui ne laisse aucune trace. Lui-même m'offre le moyen de le lui administrer. Le quartier est désert, le brouillard impénétrable, la Seine haute. Rosalie est à ma discrétion, l'impunité est certaine, etc., etc. Jamais je n'eusse cru mon entendement capable d'une opération aussi complexe. J'allais jusqu'à penser qu'il y avait une providence, et que cette providence était ma complice, qu'elle se servait de ma main pour châtier un criminel, que j'accomplissais un devoir, une mission même. Bien qu'en proie à la fièvre, je rentrais maître de moi. J'appelai Rosalie dans la pièce du devant et lui dis à voix basse, rapidement, d'un air saccadé. « Ne t'émeut de rien, du sang-froid, de l'audace. Obéis-moi en tout. Il n'y a rien à craindre. Notre fortune est faite. »
Je m'aperçus à son frisson et à son serrement de main qu'elle m'avait deviné. À la lumière dans la chambre du fond, je m'assurai que pour être pâle comme une morte et tremblante, elle n'était pas moins résolue que moi. Tillard se plaignait toujours de la soif. Plein de sécurité, il faisait face au feu de la cheminée et nous tournait le dos. Pendant que, derrière lui, je préparais le vin sur la table, il me dit en bâillant « Vous connaissez Madame de Tranchant pour avoir été 20 fois chez elle, de ma part. J'ai couru tout le jour après elle, sans parvenir à la joindre. Je ne puis différer mon départ un moment de plus. Je dois être à Londres dans le plus bref délai. J'ai là une lettre et un paquet que je vous prierai de lui remettre sans retard, en main propre. La chose est tellement urgente et délicate que je n'ai cru pouvoir la confier qu'à vous. Il est bien entendu que, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas m'avoir vu. Je crois avoir le droit de compter sur votre discrétion. Je ne partirai pas au reste sans vous prouver que je ne marchande pas les services qu'on me rend. » Je ne l'entendais que vaguement et je me songeais hier à lui répondre. La préparation du vin m'absorbait entièrement. Après y avoir fait dissoudre le sucre et y avoir ajouté des rouelles de citron, j'y glissais quelques grains d'opium. Je versais le tout dans une bouilloire et l'approchais du feu. Le liquide ne tarda pas à s'échauffer. Tillard s'impatientait, je lui présentais un verre du breuvage. À peine fut-il d'une chaleur supportable qu'il l'avala d'un trait. Il m'en demanda aussitôt un second, et en moins de quelques minutes, il but ainsi 3 verres pleins. L'effet du narcotique fut rapide. Tillard, déjà harassé, fut saisi d'un besoin irrésistible de sommeil. Il se leva. « Oh, c'est singulier, » fit-il. « Mes paupières se ferment malgré moi. Oh, si vous voulez faire un somme sur le lit, » lui dis-je, d'une voix ferme. Il hésita, la saleté du lit lui causait de la répugnance. Mais la lassitude triompha bientôt de sa délicatesse. « Au moins, » dit-il en bâillant et en se frottant les yeux, « n'oubliez pas coûte que coûte de m'éveiller dans 2 heures d'ici. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer la voiture. Vous m'accompagnerez. » Rosalie, dont j'entendais les dents claquer, arrangea le lit de son mieux. Tillard le recouvrit encore de son manteau et s'y étendit pour dormir tout de suite d'un lourd sommeil. Des aiguilles dans sa chair ne l'eût certainement pas éveillé. Je saisis sur le champ mon autre fiole, celle où était le poison. J'en brisai le goulot, puis la serrai dans ma main gauche, en appuyant fermement le pouce sur l'ouverture. Rosalie, changée en pierre, me regardait sans comprendre. Je m'approchai de Tillard. Des doigts de ma main libre, je lui pinçai doucement les narines et le contraignis peu à peu d'ouvrir la bouche. Dès qu'elle fut béante, je lui versai l'acide dans la gorge. Il avala le contenu de la fiole d'une seule inspiration. En même temps, je me reculai de quelques pas. Oh, le poison agit avec une promptitude foudroyante. Ce fut d'abord une violente secousse de tout le corps, puis des mouvements convulsifs effrayants. Il entr'ouvrit les yeux, agita les lèvres, mais il ne proféra pas un son. Je redoutais des vomissements, il n'y en eut point. 4 ou 5 minutes après, il ne remuait déjà plus. Je m'approchai, il était sans pouls et sans respiration. Une sueur visqueuse lui couvrait la peau, les muscles de la face étaient affaissés. Je le croyais déjà mort quand il s'agita de nouveau convulsivement, mais c'étaient les derniers efforts de son agonie.
La rigidité des membres m'avertit bientôt qu'il n'était plus réellement qu'un cadavre. Avec une terreur combattue par la cupidité, je songeais alors à explorer les vêtements de Tillard. Je m'imaginais, je ne sais pourquoi, que l'argent était dans sa valise. En cherchant la clé de cette valise dans un de ses goussets, j'ai mis la main sur une superbe montre et sur un porte-monnaie plein d'or. Je laissai la montre sur place et me bornai à soustraire quelques pièces d'or du porte-monnaie. Je procédai à l'inspection de la valise. À mon grand désappointement, elle ne renfermait que du linge. Je dis à Rosalie de la remettre dans l'état où elle était d'abord. Pendant ce temps, je fouillais scrupuleusement les autres poches de ma victime. Celle de côté du par-dessus ne contenait qu'un passeport et des lettres, au nombre desquelles je trouvais celle à Madame de Tranchant et le paquet à l'adresse de cette même femme. Je remis le tout dans la poche, à l'exception de ces deux dernières pièces dont je voulais prendre connaissance. Il me parut prudent de m'approprier une partie de la bonnet blanche qui garnissait les poches du pantalon. En attendant, je me trouvais toujours pas ce que je cherchais. Mais au moment même où je commençais à être effrayé du peu de valeur de mes trouvailles, je sentis sous mes doigts, dans la poche de côté du vêtement de dessous, un portefeuille bourré de papier. En guise de rideau, devant l'ouverture oblongue par où nous venait la lumière, nous avions coutume le soir d'appendre une partie de nos haillons. Mon premier souci fut de tourner les yeux vers cette sorte de fenêtre et de me convaincre qu'on ne pouvait pas nous apercevoir du dehors. Je posai ensuite le portefeuille sur la table, j'en approchai la chandelle dont j'écartelai la mèche pour y mieux voir, puis je m'assis. Rosalie vint s'asseoir à côté de moi. Il me semblait pas qu'il fût vain de la mettre en garde contre une émotion trop vive, précaution dont moi-même j'avais grand besoin. J'ouvris le portefeuille. À la première chose que j'en tirai, nous suffoquâmes de joie, ou mieux, nous faillîmes mourir sur le coup, car cette première chose se trouvait être une liasse de billets de banque. « Ah, enfin, enfin » répétâmes-nous pendant 10 minutes d'une voix entrecoupée. Bientôt, plus calme, nous nous donnâmes la jouissance de compter les billets un à un. Nous n'en finissions pas. Il y en avait 300 000 francs. Rosalie était d'avis de tout garder. Cela ne cadrait point avec mes combinaisons. À l'immense convoitise qui m'envahissait, se mêlait une certaine prudence. Des 300 billets, j'en détachais 100, que je serrais précieusement dans le portefeuille, lequel portefeuille je replaçais non moins précieusement dans la poche où je l'avais tiré, et je bouclais ensuite la valise. « Mais qu'allons-nous en faire ?» me dit tout à coup Rosalie, qui à un moment avait oublié Tillard. « Sois calme, lui répondis-je, occupe-toi seulement à mettre en sûreté ces billets dans la doublure de ta robe ou de tes jupons. » Dans la préméditation du crime, toutes les circonstances qui me favorisaient m'avaient frappé d'un seul coup. Eh bien, avant même de faire un cadavre de l'argent de change, j'avais entrevu combien il me serait facile de m'en débarrasser. Au préalable, je sortis pour tâter les lieux. Le brouillard ne discontinuait pas d'étendre aux alentours son voile impénétrable. J'étais à 2 pas du pont rouge. De borne en borne, je me glissais jusqu'à la Seine. J'écoutais. Le silence n'était pas moins profond que les ténèbres l'étaient épaisses. L'eau seule, dans sa course, bruissait et chantait sa psalmodie monotone et sinistre. De retour à la maison, après m'être déchaussé, car j'étais résolu à sortir pieds nus, j'enveloppai Tillard et sa valise dans les plis de son manteau. déjà d'une force herculéenne, surexcité en outre au point d'ébranler une montagne, je soulevais l'agent de change dans mes bras comme j'eusse fait d'un mannequin d'osier. Sur mon ordre, Rosalie éteignit la lumière et alla m'ouvrir la porte. Chargé de mon fardeau, je marchais à pas de loup, lentement, sûrement, vers le pont. Quoique j'en eusse, je sentais la sueur ruisseler sur mon visage. Par surcroît de terreur, je ne fus pas plutôt engagé sur la passerelle que les oscillations du tablier me firent croire que des gens venaient à ma rencontre. Une telle sensation n'est pas exprimable. Oh, j'eus la pensée de retourner sur mes pas. Dans ma courte halte, le pont cessa de vaciller. Retenant mon souffle, j'avançai alors doucement, mais si doucement, que le pont ne s'y est plus. Je parvins ainsi jusqu'à l'endroit où le pied de la balustrade est tangent à la courbe des chaînes en fer. Là, je m'arrêtai, puis je prêtai l'oreille. Des fantômes dansaient dans mes yeux. Une harmonie infernale emplissait ma tête. Il me tardait d'avoir fini. J'élevai le corps à hauteur d'homme. Je le tins suspendu quelques secondes au-dessus du fleuve. Puis je l'y laissai choir. Un bruit sourd retentit. Des éclaboussures jaillirent à droite, à gauche, en avant, en arrière, ce fut tout. En même temps, je devenais un autre homme. Je sentais au-devant de moi-même renaître une assurance imperturbable. Ma poitrine n'était déjà plus assez large pour contenir la volupté qui l'envahissait. Je me considérais intérieurement avec orgueil et croisant les bras, je regardais le ciel noir d'un air de défi et de dédain suprême. Mais que cette exaltation était vaine et qu'il fallait peu de choses pour l'éteindre. Cette nuit même, comme je poussais notre porte, que j'avais recommandée à Rosalie de laisser entr'ouverte, j'éprouvais une résistance imprévue. Par l'entrebâillement, j'appelais Rosalie à voix basse. Point de réponse. Étouffant d'inquiétude, je réunis toutes mes forces et je parvins à entrer. À terre, près de la porte, en travers, gisait la malheureuse Rosalie sans connaissance. Elle ne revint à elle que pour battre la campagne et me faire craindre qu'elle ne fût devenue folle. Ce n'était que le délire de la fièvre.